studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de studio Tamani, il est 8h à Bamako et à Gao. Mesdames, messieurs, bonjour, voici le journal. Au moins 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une attaque suicide qui a visé hier la ville de Gao. L'alliance djihadiste, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a revendiqué l'attaque. Démarrage ce mardi des journées de concertation nationale. Ces assises interviennent dans un contexte social tendu. Les avis des groupes signataires et les partis politiques de l'opposition divergent sur la question. Cette nouvelle révélation qui accuse le Premier ministre malien est sans pertinence pour les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Ils estiment qu'elle ne contribue pas à faire avancer l'enquête. Présentation de ce journal, Sekou Gadjigo. Je vous le disais dans le titre, le terrorisme a encore frappé dans le nord du Mali et c'est la ville de Gao qui a été visée hier soir par une attaque kamikaze. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, selon un premier bilan officiel. L'attaque a été revendiquée par l'Alliance djihadiste, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Imran Akilumaïga.
Ce lundi, aux environs de 20h, un véhicule 4x4 piégé a fait irruption de la cour d'une résidence au 8e quartier de Gao sur la route Wabaria. L'explosion de la charge contenue dans le dit véhicule a coûté la vie à 3 civils, blessant plusieurs autres, selon un bilan provisoire, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La déflagration a également endommagé les habitations avoisinantes, ajoute le ministère, en assurant que les forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces partenaires internationales sur le terrain, sont à pied d'œuvre pour la gestion de ce malheureux incident. Une source diplomatique occidentale a déclaré de son côté à l'AFP que 2 Cambodgiens, un Sud-Africain et un Zimbabwéen travaillant pour une société sous-traitante de l'INAMAS, le service de déminage de l'ONI, ont été blessés. Aussitôt après l'attaque, elle a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda.
Cette attaque est intervenue alors que les ministres françaises et allemandes des armées effectuaient une visite à Bamako. Florence Parly et Ursula von der Leyen ont échangé sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, mais aussi l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'Allemagne assure désormais le commandement de la mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali, l'EUTM. Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Les journées des concertations nationales commencent ce matin au gouvernorat du district de Bamako. Ces assises interviennent dans un contexte social tendu. Si certains groupes signataires y participent, en revanche, les partis politiques de l'opposition, eux, n'y seront pas. Selon eux, le gouvernement en place n'est pas légitime pour discuter de ces sujets. Les détails avec Amadou Amamaïga.
Les responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad ont confirmé leur participation à ces consultations et rejeté la proposition avant d'en discuter. Je pense que c'est hors processus, affirme Sidi Ibrahim Ould Sidati, responsable de la CEMA. La coordination des mouvements de l'entente émet des réserves sur le projet de découpage. Toutefois, elle affirme vouloir participer activement au processus. Du côté de la plateforme, on reste perplexe par rapport au déroulement du processus. Selon Habala Ag Hamzata, le projet de loi dans son état actuel est problématique car selon lui, il pourrait à l'avenir être source de tension entre les communautés à la base. Certains partis de l'opposition ne veulent pas participer à ces journées. Seul un État dirigé par un président légitime peut prendre en charge la question brûlante auxquelles la nation fait face. C'est en ces termes que Soumaïla Cissé a répondu à l'invitation du PM Soumaïlou Boubé Meïga sur ce sujet. Ces journées de concertation nationale s'ouvrent aujourd'hui sur fond de tension. Elles vont se poursuivre jusqu'au 17 de ce mois.
Une consultation à la base sera plus bénéfique pour une sortie de crise, c'est ce que pensent certains analystes politiques. Selon Boubacar Boukoum, le gouvernement doit prendre plus de temps pour mieux expliquer le contenu du document à la population et après demander leur avis à travers un référendum. Il est joint au téléphone par Amadou Amamaïga.
Si l'opposition on n'avait pas décliné l'invitation et que les gens de la plateforme ou de la SEMA ne refusent pas de participer, il ne fallait pas attendre grand-chose de ces concertations. Dès lors qu'il n'y a pas une consultation réelle à la base. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait qu'aujourd'hui, ni la SEMA ni l'opposition ne constituent le Mali. Vous avez suivi avec moi les élections présidentielles. Quel est le taux de participation? Combien de fois le peuple malien est dégoûté de la politique? Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelques éléments de la société politique ont décliné l'invitation et que le gouvernement semble trembler devant ces groupes organisés qu'on nous dira que les concertations ne peuvent pas avoir lieu. Donc je pense que ce qui aurait été intéressant dans la démarche du gouvernement aujourd'hui, ça aurait été de consulter réellement le peuple, notamment un référendum.
8h05 à Tombouctou, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion a démarré ce lundi dans la région de Tombouctou. Toutes les parties sont présentes selon le gouverneur de la région qui a effectué une visite sur le site. Pour Koïna Aga Amadou, c'est un grand pas dans le processus de mise en œuvre de l'accord de paix. Il estime que cette avancée dans le processus est le début de la fin de l'insécurité qui sévit dans la région. Je vous le disais dans le titre, les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ne voient pas la pertinence de l'information relayée par certaines presses occidentales sur une supposée connaissance de l'actuel Premier ministre dans la mort de deux journalistes français à Kidal. Pour eux, seules les investigations des procureurs maliens et français pourraient contribuer à apporter la lumière sur cette affaire, ce qui pose problème sur le plan juridique. Alexis Calambri, journaliste et membre de l'association des amis de Ghislaine et Claude est joint au téléphone par Ousmane Dicko.
Il n'y a pas de nouvelle information du moins dedans, puisque dire quelqu'un a parlé avec un ravisseur n'est pas une information, en ce sens que ça n'ajoute rien à la manifestation de la vérité, et ensuite on est surpris de voir par quel canal cela est arrivé, surtout sans que l'intéressé n'ait été confronté à l'information. C'est le lendemain que la radio a donné la parole à l'intéressé, mais sur le coup, les premiers à avoir fait la révélation, à savoir l'Express et l'AFP, n'ont pas pris la peine de recouper l'information au niveau du Premier ministre. Donc franchement, si vous voyez, on a mis au conditionnel, on a dit qu'un journaliste d'investigation malien aurait dit que c'est tellement léger que franchement, on se demande pourquoi cela. En réalité, il y a deux accès à Kidal et à Paris qu'il faut chercher des informations. Le procureur malien ne peut pas aller à Paris, le procureur français ne vient pas à Kidal. Donc c'est le statu quo et beaucoup de spéculation.
La santé de Sophie Petronin, détenue depuis 2016, s'est détériorée selon ses ravisseurs. L'information a été donnée ce dimanche dans un enregistrement audio diffusé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Âgée de 75 ans, sa famille, qui s'inquiète pour son état de santé, avait interpellé les autorités françaises de ne pas laisser mourir Sophie là-bas. Mariam Koulibaly nous en dit plus.
Le groupe djihadiste Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda, a diffusé un communiqué ce dimanche pour alerter sur la dégradation de l'état de santé de Sophie Petronin. Âgée de 75 ans, l'humanitaire franco-suisse est détenu par ses ravisseurs depuis décembre 2016. Dans ce document, le groupe rejette la faute sur le gouvernement français dans l'obstination à empêcher la clôture de cette affaire. Elle était apparue très affaiblie dans une vidéo produite le 14 juin dernier. Sa famille soupçonnait qu'elle était atteinte d'un cancer et avait contracté le paludisme. La visite que son fils devrait lui rendre a été annulée pour des raisons de sécurité et pour sauver sa vie et celle de sa mère, selon les ravisseurs. La rencontre était pourtant soutenue par le Quai d'Orsay. En juin dernier, sa famille, dont le neveu de Sophie Petronin, avait demandé à Emmanuel Macron de ne pas laisser mourir sa tante là-bas et que sa santé se détériore de jour en jour, a-t-il ajouté.
C'était plutôt des explications de Fatoumata Togola, les femmes au cœur de la justice transitionnelle. C'est le thème choisi pour la deuxième édition de l'université sur la justice transitionnelle. Les travaux ont débuté ce lundi à Bamako. Cette rencontre qui dure 5 jours vise à renforcer les compétences et les capacités des membres issus des organisations de la société civile et des associations de défense des droits de l'homme en matière de justice en faveur des femmes. Elle est une initiative du projet JUPREC, Justice, Prévention et Réconciliation. Cheikh Boubacar, Cheikh Boukadar Diakité est le responsable du volet justice transitionnelle au sein du projet JUPREC. Il est au micro de Maman Babakunta.
Nous avons placé les femmes au cœur de la justice transitionnelle cette année parce que nous sommes convaincus que le processus de justice transitionnelle est un processus qui se veut assez participatif et assez inclusif. Et les études ont prouvé à suffisance que les femmes ont été les couches les plus touchées par rapport à la crise que le Mali a connue et que le Mali connaît d'ailleurs depuis 2012. Nous allons développer les thématiques suivantes, à savoir la centralité des victimes, parce que c'est un processus qui se veut participatif, comme on l'a dit, mais aussi les victimes doivent se retrouver au centre de ce processus. Et aussi, nous allons aborder les défis liés, n'est-ce pas, aux poursuites des auteurs de graves violations de droits de l'homme, parce que vous n'êtes pas sans savoir également que la justice transitionnelle repose sur un certain nombre de piliers, à savoir la justice, à savoir le droit à la vérité, le droit à la réparation, ainsi que les garanties de non-répétition. Donc, il y a au sortir de ce processus un objectif, en tout cas, trouver l'équilibre entre cet objectif de réconciliation et l'objectif également de justice et de réparation pour les victimes.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
L'actualité régionale en quelques brèves et une rencontre sur le conflit qui a opposé les villages de Djelimala en Guinée et Faboula au Mali s'est tenue dimanche dernier à Daoulila dans la commune de Guanyaka, cercle de Yamfolila. On prépare à la rencontre les sous-préfets de Nyantanina, Guinée et Kalana, Mali, les maires des deux sous-préfectures, tous accompagnés des chefs de village, des religieux, des jeunes femmes des différents villages. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé de mettre fin au conflit et d'enterrer définitivement la hache de guerre. À Kita, région de Kaï, les responsables du cercle réfléchissent depuis ce lundi sur la question du découpage administratif. Il s'agit de faire des propositions provisoires du cercle et des communes rurales qui doivent constituer la région de Kita. Plus d'une centaine de personnes, dont des élus, les chefs de quartier, les chefs religieux et la jeunesse, prennent part à la rencontre. Et voilà qui met fin à ce journal, un journal présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde de Noum Djiré. Merci de l'avoir suivi.